Chers amis auditeurs, bonjour. C'est une joie de me retrouver sur les ondes pour pouvoir essayer de réfléchir avec vous. Et on va réfléchir aujourd'hui, pendant quelques émissions, sur un livre de la Bible qui est souvent bizarrement interprété, qui est souvent difficile à comprendre, qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Alors vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, il y a les 4 évangiles, et puis le dernier livre, c'est le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse qui a été écrit par l'évangéliste Jean. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, il y a 5 livres qui ont été écrits par l'évangéliste Jean. D'abord l'évangile de Jean, bien sûr. Ensuite, il y a la première épître de Jean, la deuxième épître de Jean, la troisième épître de Jean. Et puis, le livre de l'Apocalypse. Alors, première des choses, vous voyez, c'est d'abord ceux d'entre vous qui ont l'Apocalypse, n'hésitez pas au Nouveau Testament, n'hésitez pas déjà à chercher votre Bible, à pouvoir l'ouvrir. Et puis, on va commencer ensemble avec le chapitre 1 et on verra où on pourra s'arrêter. Première des choses, vous voyez, il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre apocalyptique, au sens où on dit souvent que c'est dans l'Apocalypse que tu vas trouver la date de la fin du monde, les catastrophes qui vont se passer, tout ça. Je pense que c'est une interprétation qui n'est pas très juste. Et je pense plutôt, moi, que l'Apocalypse, d'ailleurs, comme tous les autres livres de la Bible, est un passage qui est inspiré par Dieu, bien sûr, et qui est parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et les 22 chapitres de l'Apocalypse sont 22 chapitres qui veulent nous dire quelque chose à nous aujourd'hui, les croyants. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, on vous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus effilée qu'un glaive à deux tranchants. Et la parole de Dieu est vivante et efficace pour moi aujourd'hui. Quand je lis la Bible et que je l'interprète d'une manière exacte, donc qu'elle est parole de Dieu, j'en profite pour vous rappeler que pour moi, Père Hervé Marie, en tout cas pour nous les catholiques, la Bible ne peut être bien interprétée qu'à l'intérieur même de l'Église catholique. Tous ceux qui interprètent la Bible et qui vous donnent une interprétation de la Bible qui n'est pas conforme à ce que l'Église enseigne, sont des interprétations qui sont fausses. On ne verra pas ça maintenant parce qu'il faut entrer dans l'Apocalypse, mais je vous rappelle que l'Église est avant la Bible. Et que c'est l'Église qui a discerné les vrais livres des faux livres. C'est grâce à l'Église que nous avons la Bible. Et donc la Bible, qui est à l'intérieur de l'Église, qui est née dans l'Église, ne peut être bien interprétée qu'en conformité avec l'Église qui l'interprète pour nous. Et donc, ce livre de l'Apocalypse aujourd'hui, bien interprété, comme tous les livres de la Bible bien interprétés, sont pour nous parole de Dieu. Et ça veut dire que le livre de l'Apocalypse doit m'apporter une lumière dans ma vie aujourd'hui. Alors vous voyez, parmi les 5 écrits de Jean dont je vous ai parlé, il y a 3 grands écrits importants. Il y a premièrement, il y a l'Évangile. Alors je vous lis la finale de l'Évangile de Jean au chapitre 20, verset 30, où il est dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Et dans ce passage de Jean chapitre 20 versets 30 et 31, on nous montre bien que le livre de l'Évangile a été écrit pour que nous ayons la foi. Et l'Évangile est lié directement à la foi. La première épître de Jean, c'est là où il est révélé deux fois que Dieu est amour. Et la première épître de Jean est liée directement à la charité. Et forcément, si l'Évangile est lié à la foi, que la première épître de Jean est liée à la charité, il reste pour l'Apocalypse forcément l'espérance. Et le livre de l'Apocalypse, pour moi, est vraiment le livre de l'espérance. C'est un livre qui, pour moi, a été écrit, a été donné aux hommes pour leur permettre de pouvoir vivre d'une espérance réelle et vraie. Quand les premiers chrétiens vont accepter de suivre Jésus, en suivant Jésus, on va s'apercevoir quand même que entrer dans l'Église, ce n'est pas un truc très top parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en entrant dans l'Église, ça se termine toujours mal. Le maître lui-même a été crucifié, c'est pas la meilleure vie qu'on peut proposer à quelqu'un. Jean-Baptiste, qui a été son ami, on lui a coupé la tête. Vous regardez tous les apôtres, ils sont tous morts martyrs, sauf Saint-Jean. Donc au bout d'un moment, devenir l'ami de Jésus et entrer dans l'Église, on commence à se poser des questions parce qu'on dit que si ça se trouve, nous aussi, c'est ce qui va nous arriver. Et je vous rappelle que dans les 4 premiers siècles de l'Église, il y a quand même eu énormément de persécutions. Et les chrétiens ont été combattus. Et ces chrétiens qui étaient combattus, il faut leur donner un souffle, une force pour pouvoir mener le véritable combat. Et l'Apocalypse, pour moi, est un livre qui a été écrit pour montrer aux chrétiens que ne vous inquiétez pas. Il faut que vous sachiez que c'est vrai que la vie chrétienne est exigeante, qu'il y a beaucoup de persécutions, qu'il y a des gens qui vont mourir, c'est clair, mais même si on meurt, c'est pas grave. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, on va voir la plus belle description du Christ glorieux. Je vous rappelle que la résurrection du Christ se trouve à la fin des quatre évangiles. Dans Matthieu, c'est le chapitre 28. Dans Marc, c'est le chapitre 16. Dans Luc, c'est le chapitre 24. Et dans Jean, il y a deux chapitres sur la résurrection, le chapitre 20 et 21. Et on voit à travers ces différents chapitres, je crois même, si vous cherchez bien, vous allez voir sept résurrections du Christ. Et dans ces sept résurrections du Christ, il n'y a pas de description au sens strict du Christ ressuscité comme celle que nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, je vous lis, hein, chapitre 1, on est au verset 12. « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe blanche et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Et on voit là comment Saint Jean va nous donner, dans cette révélation de l'Apocalypse, cette vision du Christ sur laquelle on pourra revenir. Mais déjà, c'est pour nous faire comprendre que dans le premier chapitre de l'Apocalypse, nous voyons déjà la victoire du Christ. Le Christ est victorieux et le Christ apparaît au premier chapitre comme étant celui qui est ressuscité d'entre les morts. Dans chacun des évangiles, on nous montre comment le Christ est mort. Et il est clair que notre modèle, notre maître, le Christ, est quelqu'un qui a été crucifié et qui est mort sur la croix. Mais l'Apocalypse veut nous faire comprendre que le Christ est plus fort que la mort et que la résurrection doit être là pour donner la lumière d'abord au livre de l'Apocalypse. Et donc ce livre de l'Apocalypse commence par cette apparition du Christ glorieux pour montrer qu'il est victorieux. Et que quel que soit notre combat, eh bien nous sommes nous aussi, à la suite du Christ, des gens qui même si un jour nous sommes appelés à mourir, eh bien un jour nous savons que nous serons plus forts que la mort. Alors, ça c'est juste une petite introduction, mais commençons maintenant avec le premier verset. Apocalypse, donc chapitre 1, le verset 1. « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. L'Apocalypse, premier verset, révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, qu'on se comprenne bien, c'est pas moi qui le dis. Et donc ça montre bien que le livre de l'Apocalypse est révélé à Jean et c'est la révélation de Jésus-Christ qui est donnée à Jean. J'ai envie de dire, vous voyez, qu'on a l'impression quelque part que l'Apocalypse est le livre sans doute le plus important de toutes les Saintes Écritures, puisque c'est la révélation même de Jésus-Christ. Alors il est clair que les évangiles sont très importants, et les évangiles nous racontent la vie même de Jésus. Et c'est pour ça que les évangiles, hein, je vous rappelle quand nous sommes à l'église, c'est le texte liturgique que nous lisons, où tout le monde se met debout par respect pour les évangiles qui nous racontent la vie de Jésus. Mais l'Apocalypse est aussi un livre très très important. Révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ par excellence. Et nous qui nous disons chrétiens, nous qui disons aimer Jésus, nous avons le devoir d'avoir un amour particulier pour cette révélation de Jésus-Christ. Alors, ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est qu'on aurait souhaité que Jésus-Christ, dans la révélation qu'il donne, révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à Jean, on aurait souhaité qu'il donne un livre beaucoup plus facile à comprendre et à lire. Et là, il est clair qu'on aurait tous fait des efforts pour aimer particulièrement ce livre de l'Apocalypse. Mais ce livre de l'Apocalypse, quand on entre dedans, on voit des choses quand même assez biscornues et bizarres, et au bout d'un moment, ça nous décourage un peu. Eh bien, on va quand même essayer, vous voyez, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'entrer dans cette révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a voulu que ce livre soit révélé à Jean pour nous le donner à nous, afin que nous puissions en vivre. Donc, je continue. Révélation de Jésus-Christ. Ensuite, au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » C'est, je crois, le seul livre de toute la Bible où il est dit « Heureux celui qui le lit ». Et il y a une béatitude, vous-même qui m'écoutez aujourd'hui, en m'écoutant et en voulant essayer d'entrer dans l'Apocalypse, il y a une béatitude, il y a quelque chose qui nous sera donné. C'est Dieu qui l'a dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Et vous qui écoutez là, il y a une béatitude qui vous est donnée par Dieu parce que nous cherchons à comprendre cette révélation de Jésus-Christ qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse. Comprenez, il n'est pas dit « Heureux celui qui comprend ». Il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Et nous sommes heureux du fait même de lire et de pouvoir écouter. Eh bien, c'est cette parole qui est donnée à travers le livre de l'Apocalypse. On continue maintenant. Révélation de Jésus-Christ. « Heureux celui qui lit ». Au verset 4. « Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient ». Alors on va essayer de savoir, celui qui est, qui était et qui vient, c'est qui? Je relis. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc nous avons cette introduction au livre de l'Apocalypse, où on nous présente celui qui est, qui était et qui vient. Forcément, je crois qu'on est tous d'accord, c'est le Père. Ensuite, les sept esprits qui sont devant son trône, c'est les sept dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Et ensuite, on a Jésus-Christ qui est présent. Donc, on a dans cette salutation qui est donnée la présence du Père, celui qui est, qui était et qui vient, la présence de l'Esprit Saint à travers les sept esprits qui sont devant le trône, et il y a la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Jésus-Christ est présenté dans le livre de l'Apocalypse. Ici, là, je viens de vous lire, comme le témoin fidèle, premièrement. Deuxièmement, comme le premier-né d'entre les morts. Troisièmement, comme le souverain des rois de la terre. Si on lit l'évangile de Jean, en lisant l'évangile de Jean, Jésus-Christ ne se présente pas, premièrement, comme le témoin fidèle, le premier-né entre les morts. Il se présente comme étant le Verbe qui s'est fait chair. Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1.14, et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Jean 1.18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ se présente comme cet homme qui est venu sur terre, qui en même temps est Dieu, le Fils de Dieu qui est Dieu, et qui est venu nous révéler qui est Dieu. Ici, dans l'Apocalypse, il se présente premièrement comme le témoin fidèle. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour les chrétiens qui sont persécutés. Et les chrétiens persécutés sont des chrétiens qui, justement parce qu'ils sont témoins, et il semble que le mot grec pour désigner témoin est le même mot qui désigne martyr. Et donc le témoignage et le martyr fait partie de la vie chrétienne. Et Jésus-Christ se présente dans l'Apocalypse comme le témoin fidèle, celui qui a été fidèle. Et il a été témoin fidèle comment ? Ben, en acceptant de mourir crucifié sur la croix. Et c'est par sa croix qu'il témoigne de son amour pour Dieu le Père et qu'il vient sauver les hommes. Et Jésus-Christ nous montre que dans l'Apocalypse, moi je me présente non plus comme le Fils bien-aimé de Dieu, écoutez toutes ces paroles et tout ce qu'il dit, je me présente comme le témoin fidèle. Et vous, mes disciples qui acceptez d'être témoins à ma suite, bien vous serez appelés vous aussi à porter votre croix comme j'ai porté ma croix. Deuxièmement, maintenant que je suis le témoin fidèle qui meurt sur la croix, je me présente comme étant le premier-né entre les morts. Parce que après ma mort, je suis plus fort que la mort. Il est ressuscité. Et il nous fait comprendre que parmi ceux qui sont morts, il est le premier-né d'entre les morts. Il est plus fort que la mort. Donc même si vous mourrez parce que vous acceptez d'être mes témoins et d'être mes disciples et de vivre l'évangile et qu'on vous persécute, ne vous inquiétez pas, vous mourrez, mais comme moi, vous serez parmi ceux qui sont plus forts que la mort. Et moi, je suis le premier de ceux qui a été victorieux. Et à ma suite, vous serez vous aussi une multitude de frères qui seront plus forts que la mort et qui vivront avec moi. Et troisièmement, le souverain des rois de la terre. Jésus-Christ se présente comme le roi des rois. Des rois, on en a beaucoup, on en a eu. On a eu les rois de France, on a aujourd'hui Hollande, on a eu Sarkozy, on a Angela Merkel, on a Obama, on a Paul Biya au Cameroun. Voilà nos petits roitelets, des petits roitelets qui sont là, qui font quelques années, puis qui après, je vous rappelle, je dis ça gentiment, mais seront mangés par les asticots, parce que nous tous, on va partir. Il faut se rappeler que le monde est rempli de gens qui se croyaient indispensables, et un jour, une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous partir. Un jour, je me souviens, en rentrant dans un cimetière, j'avais vu un panneau où il était écrit, pour ceux qui entrent dans le cimetière, « Hier, nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous. » Et c'est beau de savoir que chacun d'entre nous, on finira dans un cimetière. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de se prendre très très au sérieux. Et donc, il y a des rois qui sont sur terre. Et ces rois qui sont là, eh bien, ils ont un roi. Il y a le roi des rois. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que pour nous qui sommes chrétiens, à travers ce livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ nous montre qu'il est le roi des rois. C'est lui qui gouverne le monde entier. Obama est gouverné par Jésus. Je ne sais pas s'il le sait. Hollande aussi. Et un jour, il aura des comptes à rendre. Parce que le jour où il va mourir, on va lui demander pourquoi tu as fait tes histoires d'homosexualité et tout ça. Il est clair que Jésus-Christ va lui demander des comptes, qu'il le veuille ou non, c'est évident. Et c'est vrai pour nous tous. Et chacun d'entre nous, un jour, on va mourir et on sera jugé par Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans notre regard humain, en regardant les rois qui gouvernent le monde aujourd'hui et tous ces royaumes, avec ces choses qui sont plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises, on a quand même eu des gens comme Adolf Hitler. qui ont gazé des millions de personnes, qui l'a tué, des innocents qui ne demandaient qu'à vivre. Et humainement parlant, nous, il est clair qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu ait permis qu'il y ait des rois ou des gouvernants comme Adolf Hitler qui ait pu gouverner et faire tout ce qu'il a fait comme mal sur terre. Et Jésus-Christ, lui, il est le roi des rois. Et c'est pour nous faire comprendre que même si aujourd'hui il y a des persécutions ou même si aujourd'hui il y a des choses qui sont difficiles, sachez une chose, c'est que tous ces rois sont dans la main du roi des rois. Et que c'est le roi des rois qui jugera le monde et qui nous donnera la compréhension de tout ce qui s'est passé sur la terre et pourquoi il a permis toutes ces choses qu'aujourd'hui, nous, on peut ne pas comprendre. Donc dans ce livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, première chose. Heureux celui qui lit, deuxième chose. Ensuite, on présente le Père, celui qui est, qui était et qui vient. L'Esprit Saint, les sept esprits qui sont devant le trône. Et puis Jésus-Christ qui se présente comme le témoin fidèle, comme le premier-né d'entre les morts et comme le souverain des rois de la terre. Alors ensuite, on continue, vous voyez. Et puis, on a donc cette vision du Christ glorieux. Et cette vision du Christ glorieux qu'on a lu tout à l'heure là, pour nous montrer que Jésus-Christ est plus fort que la mort. Alors, on pourrait, vous voyez, essayer d'analyser tout ce qui est présent dans cette vision du Christ glorieux. Et on le fera pas, on verra peut-être juste un aspect ou l'autre, hein. Mais juste avant de nous montrer cette vision du Christ glorieux au verset 12, je continue d'abord avec le verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean se présente dans l'Apocalypse. Il dit « Moi, Jean ». Dans l'évangile de Jean, il dit pas « Jean ». Dans l'évangile de Jean, il dit « Le disciple bien-aimé ». Dans l'évangile de Jean, il est entièrement relatif à Jésus. Et son nom disparaît pour devenir le disciple que Jésus aimait. Ici, dans cette... dans ce livre de l'Apocalypse, Jean dit « Je suis votre frère qui prend part à la tribulation ». Et lui aussi, il est dans le contexte de ceux qui sont persécutés. Il est témoin et étant témoin, il a été exilé dans l'île de Patmos. On l'a puni parce qu'il est disciple de Jésus-Christ. Et donc, il souffre à cause de son appartenance à Jésus. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Il était en exil à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. » C'est parce que la parole de Dieu et son témoignage a fait que, eh bien, il a été puni parce qu'on n'était pas d'accord avec sa manière de faire. Et donc, lui aussi, il est dans... cette logique de l'Apocalypse qui implique la persécution parce que je suis chrétien. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Et donc, les sept églises, ce sera Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous avons d'abord cette vision du Christ glorieux, l'introduction de l'Apocalypse qu'on voit maintenant, et ensuite on verra Apocalypse 2 et 3 où il y a le reproche aux sept églises. Et dans chacun des reproches aux sept églises, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, chacun des reproches sera fait en lien avec la vision du Christ glorieux d'Apocalypse chapitre 1. S'il y en a parmi vous qui veulent faire un petit travail biblique, vous recherchez, je vous lis si vous voulez, Apocalypse chapitre 2, hein. La première église, l'église d'Éphèse. Et dans chacun des reproches aux églises, il y a d'abord une introduction, ensuite j'en veux dire un développement et une conclusion. L'introduction, c'est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et celui qui fait le reproche à l'église d'Éphèse, c'est celui qui tient les sept étoiles dans sa main et qui marche au milieu des chandeliers d'or. Celui qui va faire le reproche à la deuxième église, l'église de Smyrne, je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, dans l'église de Smyrne, comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. C'est ce qui est présenté dans Apocalypse au chapitre 1. Dans Apocalypse chapitre 1, dans cette vision du Christ glorieux, on va sortir comme sept éléments qui sont présentés dans le Christ glorieux, et à travers ces sept éléments, Jésus-Christ va donner une leçon, j'ai envie de dire, à chacune de sept églises. Donc quand vous lirez, vous comprendrez plus facilement ce que je vous dis là, parce que ça peut être un peu barbare et théorique, mais c'est pas compliqué du tout. Donc, il va écrire donc aux sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et on voit que les sept chandeliers d'or sont présents dans l'église d'Éphèse. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, c'est celui qui justement marche comme responsable et chef de l'église. Hein? Je continue. Et donc, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus-Christ qui marche et qui est responsable de l'église, chef de l'église. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Les cheveux blancs, ça représente la sagesse. Hein? En général, c'est vrai que c'est difficile de voir un enfant de 12 ans qui soit sage. C'est quand on voit des gens avec des vieux cheveux blancs là, qu'on commence à comprendre qu'il y a une sagesse. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Hein? Les pieds dans les Saintes Écritures, ça représente toujours l'évangélisation. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et ses pieds hein, sont comme du bronze, c'est solide, rougi au four. Ça veut dire qu'il marche beaucoup et il n'hésite pas à pouvoir proclamer la bonne nouvelle partout. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Toujours la voix, grandes eaux, ça montre bien que la prédication est présente. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Vous savez que l'épée dans les Saintes Écritures représente la parole de Dieu. Et c'est pour ça que de sa bouche sort une épée. Hein? Vous avez ça dans Hébreux 4:12 qu'on a cité tout à l'heure. La parole de Dieu est une épée vivante et est une épée tranchante, vivante et efficace. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, où on parle des armes du chrétien. Parmi les armes du chrétien, on dit que le glaive, c'est la parole de Dieu. Et l'épée, donc, c'est la parole de Dieu. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Vous voyez toujours la même logique. Nous sommes dans la logique de la résurrection. Il est mort, c'est vrai, mais il est plus fort que la mort. Moi, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je vous rappelle l'introduction que je viens de vous lire par rapport à l'église de Smyrne dans Apocalypse au chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est le passage que nous venons de lire. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Il montre qu'il est plus fort que la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que celui qui marche au milieu des sept chandeliers, c'est celui qui marche au milieu des sept églises. Et le responsable de l'église, c'est Jésus. Alors j'en profite pour vous dire, il y a une chose très très importante, c'est que nous devons comprendre qu'il ne faut pas qu'on minimise la place de l'église. Aujourd'hui, vous voyez, avec toutes ces nouvelles églises qui naissent un peu partout, toutes ces églises pentecôtistes, on commence à dénigrer un peu l'église. Pour moi, que les choses soient claires, il y a une seule église voulue par le Christ. Je le dis sous le couvert de Benoît XVI, puisque Benoît XVI a dit d'une manière claire et nette qu'il y a une seule église voulue par le Christ et que cette église-là, c'est Matthieu 16:18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus a bâti son église et son église s'appelle l'église catholique. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais la vérité, c'est la vérité. Et au bout d'un moment, il faut quand même essayer de réfléchir et de comprendre. Si c'est la vérité, c'est quand même important de le savoir et de comprendre que je ne peux pas non plus commencer à rentrer dans n'importe quelle église. Ce n'est pas le hasard. Donc Matthieu 16:18, « Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. » Il y a une seule église voulue par le Christ. Alors je vous rappelle, ce n'est pas pour dénigrer les gens, mais que le fondateur des protestants, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Martin Luther, c'est un prêtre catholique que nous les catholiques on a chassé en 1517 de l'église. Le fondateur des témoins de Jéhovah, c'est Charles Taze Russell en 1870. Le fondateur des adventistes, c'est William Miller en 1830. Et aujourd'hui, vous avez même plein de gens qui aujourd'hui, au Cameroun, on a plusieurs fondateurs d'église qui sont même là-bas avec nous à Yaoundé et qui ont fondé leur part d'église. Je ne peux pas, quand je suis un chrétien sérieux et valable, entrer dans une église qui a été fondée par un homme. Et aucun homme sur la terre n'a le droit de fonder une église. Un homme qui fonde une église, pour moi, c'est un homme qui n'est pas respectable et qu'on n'a pas à respecter. La seule personne qui peut fonder une église, c'est Dieu lui-même. Et c'est Jésus qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est Jésus qui a voulu l'église. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vouloir l'église. Moi, une question que j'aurais aimé poser à Martin Luther, si j'avais pu le rencontrer un jour, c'est lui demander, toi qui fondes une église, Martin Luther, en fondant une église, qu'est-ce que tu vas donner à ton église que Jésus-Christ n'a pas donné à son église à lui? Comment voulez-vous que Martin Luther puisse, lui, le fondateur des protestants, vous donner quelque chose que Jésus-Christ ne nous a pas donné? Martin Luther ne sauvera personne. Martin Luther ne peut pas donner les sacrements. Martin Luther ne peut pas donner la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée par le Christ lui-même. Moi, j'y peux rien. Alors, je parle de Martin Luther, on peut prendre les autres si vous voulez, moi, ça m'est égal. C'est juste une réflexion de fond pour comprendre qu'il n'y a pas 36 000 églises, il n'y a pas 50 000 églises. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 50 000 églises qui sont recensées comme étant des églises de droite et de gauche. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même sérieusement le désordre. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion à avoir. Et dans le début de l'Apocalypse, Jésus-Christ se présente comme étant celui qui est ressuscité premier entre les morts et il fait le reproche aux églises, Apocalypse 2 et 3. Et je crois que ce reproche aux églises, c'est pour montrer que c'est le Christ qui a voulu l'église et c'est que l'église qui continue sa mission à lui. Si aujourd'hui, vous voulez avoir la parole de Dieu, vous aurez la parole de Dieu comment ? Je vous rappelle que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. La parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église que le Christ a voulu. Dans 1 Timothée 3,15, il est dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité pour nous dans la Bible, Jean 17,17, ta parole est vérité. Et la parole qui est la vérité est gardée dans l'Église. Quand le Christ a formé ses apôtres, il les a envoyés en mission. Luc 10,16, il dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que tu écoutes la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à cette église que le Christ a voulu. Et le Christ a voulu que cette parole de Dieu soit donnée par ses apôtres qu'il a formés et qu'il a laissés à l'intérieur de l'église. Et c'est pour ça que désobéir à l'église, c'est quand même grave. Cette église de Matthieu 16-18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Cette église est l'église que le Christ a voulu. Dans Éphésiens 5-25, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. » Le Christ s'est livré pour son église. Il est mort pour son église. Il l'a rendue une sainte et sans tâche. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre quelle est cette église. Et le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Saint Jean venait à peine de mourir. Il avait à peine fini d'écrire son Apocalypse et son évangile de Jean. Il meurt que l'église qui est là présente a pris le nom, c'est Saint Ignace d'Antioche, de catholique, catholique qui veut dire universel. Et c'est pour ça que l'église mère, la mère de toutes les églises, c'est bien cette église que le Christ a voulu. Dans Matthieu 28, à la fin du chapitre, dernier chapitre de Matthieu 28, il dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus-Christ est présent dans son église. Et nous avons raison de continuer à pouvoir cheminer et à nous engager dans l'église. Et donc, le Christ, dans l'Apocalypse, nous montre qu'il est le témoin, premier entre les morts, roi, souverain des rois de la terre. Il est plus fort que la mort, il est ressuscité. Et ensuite, il nous montre donc grâce à ça que nous sommes nous aussi à la suite du Christ, des gens qui sont appelés à être témoins et qui seront vainqueurs si on accepte de suivre le Christ jusqu'au bout. Et ensuite, il va continuer cette introduction de l'Apocalypse avec Apocalypse 2 et 3 avec le reproche aux sept églises. Et on a l'impression que rentre dans l'Apocalypse avec le chapitre 4 où on va déjà entrer dans une sorte de symbolique qui va commencer à nous perdre un peu, que je vous invite déjà à lire, c'est un trône avec quelqu'un sur le trône, l'arc-en-ciel, les 24 vieillards, vous avez les lampes de feu qui sont devant le trône, vous avez une mer de cristal, vous avez quatre vivants qui sont dans le trône et autour du trône, et c'est ce que nous essaierons de voir la prochaine fois. Chers amis auditeurs, bye bye.